All right, c'est parti. Bon mardi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je retrouve ma collègue de l'Open Mic, Audrey Pinchot, qui m'avait abandonné hier.
Allô?
Pour les podcasts.
Ben oui.
Sex tape.
Si tu veux.
C'est-tu fini, ça?
C'est fini. Dernier épisode enregistré hier.
Ouais.
Fait que non, c'est officiellement derrière et vous aurez la diffusion tous les lundis.
Là, ta première, c'était hier soir.
Oui, exactement. Hier soir, ça a été ma première avec Val, que vous connaissez bien, Mademoiselle V. On a jasé d'elle, en fait, parce que Val, si vous ne saviez pas, elle est conseillère en sexologie. Oui, elle a fait ses études,
Ouais. Mais
elle a aussi testé le terrain pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'elle a été escorte, puis auxiliaire sexuelle. Auxiliaire sexuelle, c'est quand tu es... Je vais dire un mélange d'escorte et de travailleuse sociale auprès des gens avec lourd handicap. Vous avez certainement vu à un moment donné dans votre vie, dans les beaux malaises avec Martin Matt, l'épisode où il paye une prostituée à son frère qui est lourdement handicapé.
Ouais.
Ben, c'est un peu...
La même affaire.
Le principe est un peu là, mais auxiliaire sexuel, t'as rarement des relations complètes. C'est pas mal plus d'amener de l'amour, le côté physique, les câlins, le côté humain, finalement, que ces gens-là, souvent, ont pas.
La chaleur humaine.
Exactement, c'est bien dit.
Ouais, que je parlais de ça ou c'était avec Pascal, mais il y a une massothérapeute qui m'avait raconté que c'était pas rare de voir un homme d'un certain âge, c'était toi, hein?
Oui, c'était avec
de
moi.
Voir un homme d'un certain âge brailler quand il allait juste se faire masser le dos parce que ça faisait des années que c'était pas fait toucher.
Je trouve ça triste, là.
Ouais, c'est triste. Puis, tu sais, si des fois vous nous posez la question à savoir, je peux-tu accoler ma grand-mère, je peux-tu le coller mon grand-père? J'imagine que oui. Là. Je faisais la chaleur humaine, ça n'a jamais fait de mal à personne.
Ah, au contraire. C'est même prouvé par des études que c'est câlin de 8 à 10 secondes qui fait que ça sécrète quelque chose dans ton cerveau qui est rassurant puis qui est bonne.
C'est sûr que ça va être plus facile pour ta génération à toi, la génération de mes enfants aussi, jeunes que toi, de coller. Tu sais, moi, je me souviens que quand j'étais jeune, mes parents vous voyaient leurs parents.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Il y avait une distance. Ouais, ils ne s'étaient jamais fait dire « je t'aime » par leur père.
Je trouve ça épouvantable.
T'sais, moi, mes gars sont juste écœurés que je le dise. Là.
Mais j'écris à mes parents de temps en temps, de nulle part, avec aucun contexte. Je veux juste te dire que je pense à toi et que je t'aime.
Oui, c'est
t'sais,
ça.
Mais je trouve ça tellement important.
Mais c'est ça. Moi, j'ai vu ça de mes yeux vus. Les gens se vouvoyaient alors que c'était leur père. Il y avait une forme de respect qui était tout à fait correcte, mais n'en demeure pas moins que les pères restaient à distance. Puis au niveau des émotions, ils vivaient pas pareil comme aujourd'hui, notre génération, on l'a avec nos enfants. Ils aimaient tout autant, probablement.
Mais y avait-tu une raison pour laquelle il y avait cette distance-là?
C'est une bonne question, mais je pense que c'était plus la notion de respect. Ton père était pas tout le temps avec toi, travaillait extrêmement fort. Ta mère travaillait fort, mais en étant tout le temps avec toi. Je sais pas. C'est une façon de donner de l'amour. Là. Puis ce qui est curieux, c'est qu'avec le temps, j'ai côtoyé des gens qui étaient très froids avec leurs enfants lorsqu'ils étaient jeunes. Puis aujourd'hui, je vois régulièrement ces gens-là revenir en disant « je t'aime » sur les réseaux sociaux.
Ah ouais.
C'est des gens de mon entourage.
Ah, c'est capoté.
Mais je t'aime mon fils. Et tout ça, alors que quand il était jeune, les enfants n'entendaient jamais ça de la part de leurs parents. Fait que c'est l'air du temps. Je pense que on s'est juste amélioré au niveau verbal avec nos enfants.
Le dites-vous, 88-971-1021, on dirait que pour moi, c'est tellement naturel que je vois même pas la difficulté ou la vulnérabilité là-dedans. T'sais, pour moi, c'est juste simple de dire... Puis ma famille, mais pire que ça, là, Yann, là, mes amis proches, là, si je peux... Je raccroche avec mes chums de filles, puis « Hey, bye, je t'aime fort, là, prends soin de toi, texte-moi quand t'es arrivé à la maison. » Il y a comme cet amour-là qui est grand, finalement,
mais
avec
l'entourage. Mais c'est les générations. L'amour était présent, c'est juste qu'elle était juste différente. Le père était vu comme étant le pourvoyeur, puis la mère était vue comme la personne qui était à la maison, qui était ta mère, qui essayait de faire la discipline autant qu'elle pouvait. Puis le dimanche, quand le monsieur arrivait, ben là, il est passé un par un pour redresser les torts que le petit Samuel ou le petit Eric avait fait pendant la semaine.
Il servait à punition. Là.
Ouais, c'est ça. On n'avait pas toujours le très beau rôle, tu sais. Puis on n'était pas parfait non plus. Je veux dire, on n'est pas, il n'y a pas personne de parfait aujourd'hui, mais les parents du temps n'étaient pas parfaits. C'est juste qu'il y avait une façon différente de montrer l'amour pour leurs enfants.
Mais c'est un besoin. On va se dire, c'est un besoin de base de ressentir cet amour-là. Puis c'est un peu le principe du métier qu'elle a effectué, Valérie, au fil des années, dans le sens qu'il y a eu beaucoup de ça, beaucoup d'éducation dans son métier d'auxiliaire sexuel. Tu sais, des gens qui sentent rien en bas de la ceinture, qui doivent apprendre à avoir une sexualité autrement, que ce soit par des zones érogènes, que ce soit par le mental, par les câlins, justement, l'affection. Oui. Fait que, honnêtement, je trouve ça... moi, je lève mon chapeau. Là, ça prend beaucoup d'empathie, beaucoup de respect de l'autre, beaucoup de lâcher prise. Fait que c'est de tout ça qu'on a jasé dans ce podcast-là.
Ah, c'est le fun. Tu vois, quelqu'un qui écrit « Salut mon père, 72 ans, il fait partie de la génération qui est un peu distante avec leurs enfants. Aujourd'hui, j'ai 42 ans et mon père ne manque plus d'occasion de nous dire qu'il nous aime. C'est des mots que je n'avais pas entendus depuis 10 ans. »
C'est magnifique, là.
Mm-hmm.
Puis des fois, ça prend du temps ou ça prend un déclic, là. Des fois, ça prend la maladie. Il y en a que ça va vraiment prendre quelque chose de tu sais, je sais pas, une annonce de cancer dans la famille pour que tout d'un coup, tu réalises la valeur de la personne qui est près de toi. Je sais pas, ça a toujours été très naturel, puis je suis chanceuse, en fait, là, parce que c'est ça, mes parents, il y a jamais eu de moment où c'est arrivé, ça a toujours été ça.
Salut, gang! Mon père me le disait pas, moi qui m'aimais, mais depuis que j'ai eu mes enfants, mon fils, entre autres, à chaque jour, je lui dis « Hey, bon après-midi! » Ben, c'est encore le bon matin, là, mon ami, mais Nico, c'est le sushi-man! Nico, le sushi-man, salut! Ben oui, c'est ça, peut-être qu'on se reprend sur nos enfants. Moi, je te le dis, là, des fois, j'ai des crises, là... Je fais la prise en quatre, là, je les pogne dans le salon. Puis il essaie de se déprendre. Puis là, j'ai des crises d'amour, puis là, je lui dis que je les aime. Puis ils font exactement comme moi quand j'avais de l'amour quand j'étais jeune. J'essayais de me déprendre, puis je...
Ouais, ben oui,
mais
ben
ça
oui.
Fait partie des plus beaux moments de ma vie, tu sais, quand mes parents me prenaient, puis ils me disaient qu'ils m'aimaient.
Oui, oui, ouais, totalement.
Fait que c'est ça, j'essaie de reproduire ça avec mes enfants.
Ça doit avoir des effets aussi, là, quand tu te le fais pas dire plus jeune. Tu sais, j'imagine que tu as de la misère à le reproduire à l'âge adulte.
Peut-être, je sais pas.
Ou tu le fais trop. C'est la psychologie à Saint-Saëns.
Ou tu le fais trop.
Oui, peut-être aussi, t'as raison.
Hey, j'ai des histoires à te raconter. T'as-tu écouté Jurassic Park, toi? C'est-tu ta génération, Jurassic Park?
Absolument. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma.
Puis c'était de la science-fiction.
Oui.
Sauf qu'il y avait des chercheurs qui étaient sortis suite à ce film-là en disant il y a des choses qu'on peut faire qui pourraient s'apparenter à. Peut-être qu'on ne serait pas capable de ramener un tyrannosaure
ouais, c'est ça.
Rex. Là. mais je t'annonce que ça s'est fait. Là. On a recréé une race de loups qui s'était éteinte il y a de ça 13 000 ans.
Mais c'est quoi l'idée, hein?
L'idée, c'est de peut-être jouer un peu avec la nature.
Jouer avec le feu, tu vas me dire?
Jouer un peu avec la nature. C'est
13 000 ans?
Oui, c'est une race de loups. Ça s'appelle les Dire Wolves. Puis, c'est des loups sinistres, en fait. Ça, c'est le mot en français, là. Et ils mesurent un pied de plus que le loup original qu'on a aujourd'hui.
Ils sont hauts sur pattes.
Non, en fait, ouais, toi, tu parles de la hauteur. Ils sont à peu près la même hauteur, c'est juste qu'ils sont plus longs d'un pied. Fait que les loups qu'on a aujourd'hui, ils sont autour de 6 pieds de long. Puis les Dire Wolves, ou les loups sinistres, sont à 7 pieds maintenant. On a été capable de le faire. On a réussi à avoir 2 petits gars puis une petite fille. Donc, 2 mâles et 1 femelle. C'est les loups qu'on peut voir là, faits par ordinateur dans la série Trône de fer.
OK.
Puis on a décidé de les reproduire.
J'ai l'image.
C'est complètement capoté.
Puis là, on veut quoi? On veut remettre ça dans la nature puis fucker toute la chaîne?
C'est une bonne question.
Je trouve toujours ça spécial. En fait, je trouve ça hot qu'on joue avec la science puis qu'on soit capable de reproduire ces races-là. Puis c'est malade, là. Tu fais quoi avec?
Ouais.
Parce que ça devait être agressif, cette affaire-là. Là. Je veux dire, ça a l'instinct de survie.
Comme
ça...
un loup?
Oui, non, je comprends ce que tu veux dire, mais les loups sont devenus des chiens avec le temps, là. C'est ça, si tu recules il y a 13 000 ans, il n'y a pas de chien là. C'est une espèce qui chasse, qui est maligne, qui...
Ouais, je t'émets une hypothèse. Là, on a réussi à le faire. On a réussi à reculer 13 000 ans dans le temps pour réussir à ramener cette race de loups-là. Mais ça fait juste en sorte que je pense que les animaux aujourd'hui qui sont en voie d'extinction...
Ils remettraient ça à terre.
On va être capable de les conserver.
Les pandas, les ours polaires.
Oui.
C'est mes préférés.
Ouais.
Mais ils sont en voie d'extinction.
Oui, j'ai vu des animaux qui ne sont plus en voie d'extinction. Là. Et en fait, ils ne l'ont jamais été. Les ours noirs, il y en a de plus en plus. Puis il y a certains endroits au Québec là, où au kilomètre carré, hey, c'est pas gros, là, t'as 3 ours.
Mm. Quand j'habitais, t'as-tu faim, Yann?
Non, pourquoi?
Ton ventre, il a fait...
C'est le tien?
Vraiment entendu en onde.
C'est le tien?
Mais non.
Eh oui?
J'ai mangé.
Ben, moi, j'ai mangé à matin.
En tout cas, je sais pas si vous l'avez entendu, la gang, là, mais tu vois, quand j'habitais à Shannon, pour reprendre tes ours noirs, là, on en avait un ours en arrière, nous autres, là. qui a été vu une couple de fois quand on passait en quatre roues. Là. Mais il y en a de plus en plus. Ça, j'ai jamais non plus vu que c'était en voie d'extinction.
Tu sais, moi, les ours noirs, ça me laisse pas craindre le pire. Moi, c'est plus les...
Grizzly.
Je te dirais les petites bêtes là, féroces, là, les petits renards qui viennent gosser coyotes. Pour tes chats, ton chien, surtout tes chats. Pour les renards, là, le chien, il s'en approchera pas nécessairement. Après ça, t'as...
Nous autres, on a une histoire la semaine passée dans le coin de Deschambault.
Les loups qui peuvent attaquer ton chien.
Ben oui. Ouais. Nous autres, c'est un coyote. La semaine passée, il y a eu, tu sais, dans les spotted de ta ville, là.
Ouais.
Nous autres, sur notre groupe de Deschambault-Grondines, il y a quelqu'un qui a mis un post pour dire « Faites attention à vos chiens. Mon petit chien s'est fait ramasser par un coyote. »
Ouais, c'est ça.
Fait que là, tu te dis, OK, on surveille. Mais oui, effectivement, mais c'est parce que c'est plus sournois. Hein?
C'est plus ça qui m'achale que d'autres choses. Quand je me promène en forêt, j'ai pas nécessairement peur. Qu'est-ce que tu fais quand tu te promènes seul en forêt? Tu prends-tu des moyens de sécurité?
Honnêtement, non.
Jamais?
Non.
OK.
C'est peut-être l'habitude. C'est peut-être parce que...
Tu fais pas de bruit. Tu laisses pas traîner un porte-clés qui fait gling, gling, gling.
Non.
Tu mets pas une clochette. Tu sais que tu parlais de Shannon tantôt, il y a de ça plusieurs années, elle doit dater de 20 ans, il y a une athlète qui était militaire à la base militaire de Valcartier. Elle était, je pense qu'elle faisait un sport, c'est pas une marathonienne, c'était quoi donc? Biathlète. C'était une biathlète, puis elle s'entraînait au ski de fond. Puis elle avait ses écouteurs, ses oreilles, puis il y a un ours qui a sauté dessus, puis merci,
non,
bonsoir, ça s'est terminé là. Ouais.
Elle est décédée.
Ouais, dans le secteur de
Shannon,
Valcartier.
Mais je mets pas d'écouteurs, par exemple. J'ai rien. C'est comme je suis neutre, dans le fond, parce que j'amène rien pour les éloigner, mais je mets rien non plus pour me distraire. Je suis très, très à l'écoute quand je suis en forêt ou quand je vais dans le bois. Mais tu te fais plus grand que l'ours si tu hurles. C'est ça, le truc?
Oui, en fait, tu lèves tes bras dans les airs,
ouais.
Tu hurles, puis tu y fais pas d'eau, puis tu recules.
Exact.
Sauf que...
Tu cours pas.
Sauf que... Ça, c'est sur papier.
Oui, c'est sûr que là, ça peut se vivre différemment, mais ce sont les trucs de base.
Oui, tu sais, lève tes bras dans les airs, dis que t'es un être humain, que t'es pas son ennemi, que tu y veux pas de mal.
Mais il t'entend pas, par exemple, Yann. Faut juste que tu fasses du bruit, même
non,
si
mais
tu dis,
il t'entend.
Dis-moi pas, ben oui, mais il comprend pas.
Non, je sais, mais vu que tu parles, les animaux qui
chèrent,
tu sais, qui peut le laisser craindre le pire pour lui, il parle pas d'habitude.
Moi, ma peur, là, c'est pas les ours noirs, c'est les bébés.
C'est l'athlète, la biathlète Mary Beth Miller qui était tuée par un ours. Elle a été retrouvée à la base militaire de Valcartier. Elle avait 24 ans. C'est arrivé au début des années 2000.
Mon Dieu Seigneur. Ça, tu vois, je trouve ça traumatisant.
Elle avait quitté à 9h le dimanche matin pour aller s'entraîner. Puis elle n'avait pas été revue.
C'est capoté, hein?
Oui.
Ah, mais ça, j'oserais pas, par exemple. Être complètement distraite, j'irais pas jusque-là.
Tu n'irais pas jusque-là.
Ben non, je mettrais pas d'écouteurs. Je veux dire, quand tu vas marcher en forêt, sois consciente de ton environnement. Là.
Ouais, moi, je me mets tout le temps une petite oreillette. Là. Mais je laisse mes clés, exemple, là, je les installe sur mon sac à dos. Quand j'ai été dans la réserve faunique des Laurentides, il y avait... j'ai fait une trail, là, je pense que je t'en avais parlé. Je me suis dit, je vais prendre la trail la plus longue. Mais j'avais pas calculé que la trail la plus longue, c'était dans une montagne, c'était hyper abrupt. Fait que tu comprends que moi, j'étais avec mon gros pack-sac, j'étais avec toutes mes affaires. Sérieusement, là, ça montait de même. Pas juste 45 degrés. Là. Des fois, c'était c'était encore plus abrupt que ça. J'hallucinais ma vie. Puis je m'assurais de parler ou de chanter ou de faire du bruit à chaque fois ou de faire craquer des trucs. Parce que c'est là où tu peux rencontrer ce type d'animaux-là.
Ils donnent le truc du sifflet aussi. Des fois, quand tu vas en randonnée, justement, d'accrocher après ton pack-sac un sifflet. Fait que de temps en temps, tu siffles, tu comprends, pour te faire voir. Moi, c'est vraiment les bébés qui me font peur. Parce qu'un bébé, il y a toujours une maman qui est proche. Fait que je te dirais que de croiser un ours noir, mettons, adulte, c'est jamais quelque chose qui pourrait me stresser tant que ça, là, de façon hypothétique, on s'entend. Mais un bébé, je me suis toujours fait dire « Hey, cours en sens inverse. »
Oui, exactement. Pour nous joindre en studio, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Aujourd'hui, on a un gros show. On va parler de sommeil. Ça va être le sommeil tome 3 avec le docteur Maude Bouchard, qui est neuropsychologue, spécialiste en sommeil. Le sommeil, ça touche tout le monde.
Ben oui, puis chaque fois qu'on en parle, il reste des questions d'auditeurs, il reste des questions auxquelles on n'a pas touché. Puis il y a encore un sondage qui est sorti récemment pour dire que c'est littéralement 50% des Québécois qui dorment mal. Fait qu'on va faire un lien du sommeil. lien avec la santé mentale. Je sais que c'est un sujet que Maude Bouchard aime bien traiter. On va parler de plein d'affaires, la procrastination du sommeil, le sommeil quand t'es petit versus quand t'es grand, la routine idéale. Fait que si vous avez des problèmes de sommeil, des questions sur le sommeil, 88-971-1021.
Sinon, aujourd'hui, j'ai des billets pour Cypress Hill avec la tournée canadienne au cannabis. Donc, soyez alertes, ça va se faire dans les prochaines minutes. Les news de Max s'en viennent dans les prochaines secondes, ainsi que les sports. Mais pour l'instant, on débute avec Corias, lendemain sur Boulevard. Par 102.1. 10h20 minutes, je vous l'avais promis. Cypress Hill, qui va être de passage à l'Agora du Port de Québec le 21 mai prochain. Les invités spéciaux, c'est De La Soul et The Far Side.
Yannick.
Ne manquez pas Cypress Hill en concert. Les billets sont disponibles sur evenco.ca. Pourquoi tu veux pas jeter avec qui?
Ben parce que ça aurait pu aider à les faire tirer, ces billets-là.
Mais pose-les la question.
Ben j'aurais demandé qui sont les invités, mais tu viens d'y dire.
Ben tu peux les redemander par texto.
88-971-1021. Il y a plein de monde qui appelle. Les gens pensent que c'est par téléphone.
Non, c'est par texto. Donc, paire de billets pour Cypress Hill. On va se rappeler comment ça se passait dans le temps. OK, 10h21, on s'arrête, les amis.
Ce segment d'émission, présenté par qui à Québec?
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
10h26 minutes. Oh, que j'ai l'impression que le prochain sujet va faire jaser déjà des questions pour notre invité. On va aller voir juste avant la météo, les amis, avant de débuter, parce que je vois que dans certains secteurs, surtout dans, je vous dirais, dans le centre du Québec, il semble y avoir beaucoup de neige. On parlait entre autres sur la 55, là, il y a une sortie de route.
Oui.
C'est un camion là, qui a fait une mise en portefeuille, puis il semble avoir une tempête de neige dans ce secteur-là. Environnement Canada ne nous mentionne pas une tempête de neige. Par contre, elle nous mentionne aujourd'hui pour la grande région de Québec un 5 cm par endroit, des températures stables à près de 0 degré. Ce soir, cette nuit, c'est de la neige qui devrait cesser après minuit, entre 2 et 4 cm pour ce soir et cette nuit. Demain, mercredi, généralement ensoleillé avec un maximum de plus 1. Jeudi, ensoleillé maximum de 6. Et vendredi, ce sera nuageux avec un maximum de 6 degrés. Elle en est à sa troisième comparution. Devant Audrey et Marceau. C'est le docteur Maude Bouchard qui est neuropsychologue, qui est spécialiste du sommeil. À chaque fois qu'on dit, on va parler avec docteur Maude Bouchard, on commence déjà à avoir des questions d'avance. Fait que je pense que c'est bon signe, les gens semblent l'apprécier beaucoup. Bonjour docteur Bouchard.
Bonjour.
Merci de vous être rendu disponible pour nous ce matin. On a encore une multitude de questions. Qu'est-ce qui fait en sorte que le sommeil, il y a autant de problématiques sur le sommeil? C'est-tu parce que de un, tout le monde dort?
Ben, j'ai l'impression que c'est ça que j'allais répondre. Tout le monde dort, donc ça fait en sorte que s'il y a des problèmes, on peut en avoir.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a 50% des gens, des êtres humains sur Terre qui ont des problèmes de sommeil?
Ben, si on regarde les études, ça va varier un petit peu, là, mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent avoir des problèmes de sommeil, puis des troubles de sommeil, il en existe tout plein. Ceux qu'on connaît le plus, c'est l'insomnie, avoir de la difficulté à dormir quand on veut dormir. Il y en a qui connaissent l'apnée du sommeil aussi. Mais il y en a plein d'autres qui sont là aussi. Puis ça fait qu'il y a plein de gens qui souffrent de troubles de sommeil.
Est-ce que il y a des sommeils qui sont plus récupérateurs que d'autres? Exemple, moi, je suis un bon dormeur. Je vous ai dit mon truc la dernière fois, docteur Bouchard. Si vous l'avez conseillé à des patients, je charge 10%. Mais moi, c'est la régularité. Je me couche toujours à la même heure et je me lève toujours à la même heure. Des fois, je peux tricher la fin de semaine en faisant un petit somme là, de 20 minutes, mais sinon, je me couche toujours à la même heure, je me lève à la même heure. Je peux te dire que dans une relation de couple, c'est plate en maudit un gars comme moi, mais ça fait en sorte que je n'ai plus de problème de sommeil. Je ne m'endors plus pendant le jour.
Mais c'est-tu prouvé, ça, docteur? Parce que, tu sais, on entend souvent parler d'une routine de sommeil, mais tu sais, c'est-tu une vraie affaire, ça, que de se lever puis se coucher toujours à la même heure, ça peut tout régler?
Ben oui. C'est malheureux parce que c'est vrai que c'est un peu plate, hein? Sauf que effectivement, parce qu'on a des rythmes dans notre corps, des rythmes hormonaux, notre température corporelle fluctue aussi sur des rythmes de 24 heures. Et donc, quand on se couche toujours à la même heure et qu'on se lève toujours à la même heure, on vient synchroniser ces rythmes-là, on vient les aider finalement à faire tout le temps la même affaire, c'est plus facile et ça aide le sommeil. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on va faire à des gens qui sont en thérapie de sommeil, qui ont des problèmes d'insomnie et qui viennent suivre vraiment un programme pour mieux dormir, c'est un des outils.
Puis c'est quoi le truc, mettons, pour savoir, toi, comme humain, là, parce qu'on est tous différents, là, pour savoir à quelle heure tu devrais te coucher puis à quelle heure tu devrais te lever idéalement pour avoir le bon nombre d'heures de sommeil pour toi? C'est-tu de l'essai-erreur ou tu te laisses aller puis tu vois à quelle heure tu te lèves?
Ça, c'est difficile un peu, hein, parce que il y a nos besoins qu'on a, donc c'est-à-dire il y a des gens qui ont besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, puis c'est pas le même d'une personne à l'autre, mais il y a aussi ce qui se passe dans notre vie, hein. Est-ce qu'on a une jeune famille puis on doit se lever super tôt le matin, même si nous autres on aimerait bien se lever à 8 heures? Est-ce qu'on travaille à la radio puis on doit se lever super tôt le matin? Donc c'est un mélange des deux, on essaie le plus possible de se rapprocher de notre besoin de sommeil, de notre nombre d'heures de besoin de sommeil, de notre timing aussi, c'est-à-dire qu'on a tous un chronotype. Ça veut dire qu'il y a des gens qui naturellement se coucherait tard, se lèverait tard, puis il y en a d'autres que c'est le contraire. Puis encore une fois, si on peut se rapprocher de notre tendance naturelle, c'est bien, mais c'est pas toujours possible dans notre vie.
Ouais, puis les patrons comprennent pas tout le temps là, quand tu es supposé commencer à 8 heures, mais toi, ton cycle à
C'est
toi,
ça. Non, c'est
c'est
ça.
à 10 heures, faut que tu te
Ils
lèves.
sont
Les
pas
patrons, non, ils sont
compréhensifs.
pas compréhensifs. On sait pas pourquoi. Est-ce que, là, s'il y a des auditeurs qui ont des questions, parce que là, il y a déjà quelques questions qui sont rentrées, là, mais je sais qu'avec ce que je vais dire, ça se peut qu'il y ait un peu plus de questions par rapport à ça. 418-971-1021 par texto. Est-ce que les travailleurs de nuit, est-ce que les camionneurs, ces gens-là diminuent leurs années de vie en jouant un peu avec leur sommeil?
Oh là là, oui. Dans, j'aime pas ça répondre ça hein, parce que mon but c'est pas de stresser les gens. Puis aussi, on s'entend là, des horaires atypiques, c'est pas près de partir. Cela là, on en a besoin des gens qui travaillent de soir, de nuit. Il y a des gens qui ont des horaires rotatifs, mais ça affecte leur sommeil parce qu'on vient justement jouer avec les rythmes circadiens. On est en train de dire au cerveau quand c'est le temps de dormir, ben non, moi je travaille. Puis on fait le contraire aussi pendant le jour. Des fois, on dort. Donc si on regarde les études, ça peut amener des problèmes de santé physique, des problèmes de santé psychologique, et c'est une population qui a des troubles de sommeil là, deux fois plus que la population générale, en fait.
Est-ce que la clarté et la noirceur ont un impact sur notre sommeil? Exemple, un travailleur de nuit, nécessairement, quand lui, il travaille, il fait toujours noir, puis quand il dort, il fait toujours clair. Il voit pas vraiment de lumière du jour. Ça a-t-il un impact sur sa vie?
Ça a un gros impact parce que, tu sais, je vous parle des rythmes depuis tantôt, là, sur 24 heures, on appelle ça des rythmes circadiens, puis on a des structures dans notre cerveau qui nous aident à réguler ces rythmes-là. Sauf que ça se synchronise avec des indices extérieurs aussi, puis la lumière, là, c'est le plus gros indice. C'est-à-dire que quand il fait clair, quand on est exposé à la lumière du jour, ça donne un signal au cerveau comme quoi c'est le temps de sécréter des hormones pour être réveillé. Donc, le cortisol va être élevé, il n'y aura pas de mélatonine qui va être sécrétée. Et le soir, quand la lumière diminue, ben là, tranquillement, ça donne le signal au cerveau que c'est le temps de sécréter des hormones de sommeil. Donc, c'est vraiment un cycle qu'on vit jour après jour. Et pour les travailleurs atypiques, ben, on va à l'encontre de ça. C'est vrai aussi, hein, pour les gens qui restent au pôle, par exemple, où est-ce qu'ils ont des mois et des mois de clarté, par exemple, pendant l'été, puis des mois de noirceur pendant l'hiver. Bref, ça affecte ce genre de choses-là, notre cerveau, nos rythmes circadiens, puis ça peut affecter notre sommeil aussi.
Je sais qu'il n'y a pas de formule magique, là, mais y a-t-il une routine idéale? Mettons qu'on se fait un petit top 3, top 5 de trucs, là, on a parlé des heures, bon, fixes, mais y a-t-il une routine idéale qu'on peut peut-être, pour les auditeurs qui nous écoutent, commencer à mettre en place si on se rend compte que notre sommeil est tout foqué? Parce qu'on dirait que quand tu touches le fond du baril, des fois, là, puis qu'il n'y a rien qui va, tu ne sais pas par où commencer.
C'est tellement vrai, puis ça me fait penser juste parce qu'on vient de parler en plus de la population, des travailleurs de nuit, des gens qui ont des horaires atypiques. Pour faire un peu le ménage là, dans tout ça, des programmes comportementaux pour le sommeil, comme de la thérapie cognitive comportementale, de l'insomnie, ça peut être un super bon outil. Parce que justement, ça va prendre un peu toutes les choses qu'on lit, toutes les choses qu'on pense, qu'on se fait dire par rapport au sommeil, ça fait le ménage, ça
C'est
donne une
quoi
structure.
ça? C'est avec
C'est des
quelqu'un
programmes.
ou...
Oui, c'est des programmes qui sont courts, puis souvent ça va être donné par des psychologues, des psychothérapeutes, à la clinique, allez où est-ce que je travaille, c'est des programmes qu'on offre aussi, autant chez les gens qui ont des horaires normaux que chez les gens qui ont des horaires atypiques puis ont des problèmes de sommeil. Mais l'idée, c'est que c'est des programmes courts sur quelques semaines où on va changer, on va en fait aider les causes sous-jacentes à l'insomnie. On va essayer de changer des comportements, changer aussi nos pensées par rapport au sommeil. Parce que les gens qui ont des problèmes de sommeil, là, c'est pas le fun d'aller se coucher le soir. Des
Il
fois, ils ont
anticipe.
envie de s'en aller dans leur chambre,
Ben
dans leur
oui.
lit. Il y a du stress, il y a de l'anticipation. Puis des fois, c'est là depuis des dizaines d'années. Mais c'est des programmes comme ça qui peuvent vraiment venir faire le ménage. Donc ça, j'ai envie de le mentionner parce qu'on parle beaucoup des conséquences hein, du mauvais sommeil. Puis des fois, ça nous stresse encore plus. Puis on se dit, mais là, c'est quoi les solutions d'abord? Ça existe. Parlez-en à votre médecin, parlez plaisant et essayer de voir si c'est quelque chose qui peut être bon pour vous. Puis pour revenir à ta question sur la routine, quand on fait un peu le ménage de notre routine, des choses que je vais dire, c'est premièrement, est-ce qu'on peut mettre les choses plus stressantes au début de la soirée puis diminuer après ça en intensité vers la fin de la soirée? Hein? Des fois, on garde les grosses conversations avec le conjoint, la conjointe sur l'oreiller juste avant d'aller se coucher, puis là, on a le cœur qui débat, on est frustré. Donc, des fois, d'essayer de déplacer ces choses-là quand c'est possible, ça aide. Si on garde notre vaisselle ou notre ménage, toutes les choses qu'on n'aime pas faire pour juste avant d'aller se coucher, ça aussi, ça peut avoir un impact. Fait que des fois, il y a un moyen de déplacer les choses qu'on a à faire juste pour que ça parte du plus stressant au moins stressant, du plus intense au moins intense, puis de se garder un petit peu de temps à la fin, pas d'écran, juste relax avec les lumières tamisées pour préparer finalement notre organisme au sommeil.
Docteur Maude Bouchard, neuropsychologue, spécialiste du sommeil. Bon, là, je ne veux pas me vanter, mais je joue au hockey professionnel. Ça s'appelle la Ligue du Vieux-Poil. On espère un jour faire compétition à la Ligue nationale de hockey. Mais la Ligue du Vieux-Poil, parfois, on a des heures de glace qui sont particulières, c'est-à-dire à 22h le soir, 23h le soir. Puis je vais vous dire honnêtement, Doc, que quand j'arrive à la maison, la dernière affaire que je veux, après avoir travaillé extrêmement fort pendant 60 minutes sur la glace, la dernière affaire que je veux, c'est me coucher parce que mon cerveau allumé, est encore hein? allumé comme un rond de poêle. Y a-tu des trucs, mis à part la Coors Light, qu'on peut utiliser pour justement se calmer, s'endormir un peu plus rapidement? Parce que franchement, quand on arrive à la maison à minuit après une game de hockey, des fois, on n'est pas couché avant 2-3 heures du matin, malheureusement.
Ben c'est clair. Puis d'ailleurs, c'est tellement, tellement une bonne question parce que l'activité physique, là, ça aide notre sommeil. Le fait de bouger pendant la journée, ça aide la qualité de notre sommeil. Donc, un des conseils que souvent je vais donner, c'est de bouger plus. C'est pas obligé d'être au gym, c'est pas obligé d'être si intense que ça, mais juste marcher, sortir dehors, bouger, faire du gros ménage. À la limite, ça peut compter aussi. Si on est assis toute la journée, ça se peut que notre sommeil soit de moins bonne qualité. Fait que, bref, c'est super important l'activité physique et effectivement, il y a plein de gens qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas le choix de faire ça en soirée parce que justement, c'est la glace et la piscine qui est disponible à cette heure-là et ça réveille de faire de l'activité physique. Donc, si on veut se réveiller, c'est un bon outil, mais si on veut s'endormir puis aller se coucher, de bouger, ça risque de nous tenir réveillés. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on donne aux gens des fois qui sont somnolents un petit peu au volant, de se stationner, de courir un petit peu, de faire pomper la patate pour se réveiller puis être capable de conduire.
C'est pas mauvais, ça.
Ouais. Puis donc, il y a deux aspects à ça. La première, c'est des fois, il faut changer notre horaire de sommeil un petit peu. C'est-à-dire que ces soirs-là, quand on s'entraîne, on doit peut-être se coucher un petit peu plus tard parce que ça ne nous sert à rien d'aller dans notre lit, d'aller se coucher puis d'être super réveillé et de là, de passer 30 minutes, une heure et demie réveillé dans son lit à regarder l'heure puis à dire, voyons comment ça se fait que je ne m'endors pas. C'est ce genre de comportement-là qui peuvent des fois augmenter la présence d'insomnie. Donc, des fois, ça a l'air contre-intuitif, mais je vais dire aux patients, aux patientes de se coucher plus tard ces soirées-là et de se lever quand même à la même heure le lendemain matin. L'autre chose, c'est il y a des gens qui vont dire d'essayer de ne pas faire d'activité physique, tu sais, un 2 à 3 heures avant de se coucher, sauf que des fois, c'est pas réaliste, des fois, c'est le seul moment qu'on a pour en faire, et donc, c'est mieux d'adapter un petit peu notre horaire de sommeil pour être capable de s'endormir malgré tout.
Là, les conseils, on a un peu jasé, mais l'hypnose, est-ce que c'est quelque chose qui est prouvé, qui peut fonctionner pour aider les problèmes de sommeil? C'est quelque chose qu'on entend souvent, là?
Je dirais que la première chose là, qu'on devrait faire, c'est vraiment la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie. C'est d'ailleurs, là, à travers le monde, c'est quelque chose qui est étudié. Les experts en sommeil, les chercheurs, et ils ont étudié ce type de programme-là depuis des années. Et c'est recommandé comme étant la première chose qu'on devrait faire. Le problème, des fois, c'est l'accessibilité. Hein? Des fois, les médicaments sont plus accessibles et donc on commence par ça. Puis moi, je trouve ça bien triste quand je vois des patients, des patientes arriver en clinique, puis ça fait 20 ans qu'ils ont des problèmes de sommeil, ils ont tout essayé. Puis là, la dernière affaire qu'ils essaient, c'est un programme de sommeil. Ça devrait être le contraire. Donc, ça va aider la plupart des gens, des programmes comme ça, parce qu'on parle d'hygiène de sommeil, mais c'est pas juste l'hygiène de sommeil. On parle aussi de, on change vraiment des comportements, on met des choses en place et on bâtit là-dessus pour créer un momentum, puis vraiment venir aider notre sommeil.
Sommeil et santé mentale, on est rendu là. Est-ce que le manque de sommeil peut faire en sorte que notre santé mentale peut être affectée ou encore le contraire? Si la santé mentale est défectueuse ces temps-ci, est-ce que notre sommeil peut être affecté? Puis comment on peut se sortir de ce cycle-là?
Bien, certainement. Hein? Puis, je dis toujours que c'est une relation bidirectionnelle. Donc, notre sommeil, notre qualité de sommeil ou notre manque de sommeil, la présence d'insomnie, ça peut commencer par ça. Puis, ça peut faire en sorte qu'on développe de l'anxiété, de la dépression, qu'on parte en épuisement professionnel. Donc, c'est vraiment un facteur de risque pour développer ces choses-là. Mais le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire que si on vit de l'anxiété, si on est en dépression, ça se peut qu'un de nos symptômes, ce soit de l'insomnie ou même des fois de l'hypersomnie, on dort trop, par exemple. Donc, le sommeil, il est intrinsèquement lié à notre santé physique, mais aussi à notre santé mentale. Et je dis toujours qu'on doit adresser les deux. Donc, si on traite l'anxiété, si on a des solutions pour justement les symptômes dépressifs, les symptômes anxieux, on veut la même chose pour le sommeil parce que si notre sommeil ne va pas mieux, ça nous met plus à risque pour redévelopper ce type de problème-là. Donc, c'est très, très collé, les deux. Et des fois, le sommeil, bien, c'est une manière un peu plus directe, un peu plus facile de même, quand on le traite, d'avoir des impacts positifs sur ces symptômes-là.
On dirait que j'en doute pas, là. Moi, honnêtement, là, une semaine où je dors mal, là, je suis insupportable.
Ah, ça, c'est vrai, ça.
Pour les gens autour de moi, mais c'est vrai, c'est épouvantable. Je me couche un peu plus tard, là, le lendemain, là, je sais pas, irritable. Il y a rien, mais rien qui fonctionne comme si c'était vraiment la base. Puis, en fait, ce l'est, tu vas me dire, Maude, là. Mais pour plusieurs personnes, ça, on le réalise pas avant plusieurs années. Mais c'est rendu que des fois, je fais mon horaire en fonction de ça. OK, on va aller souper, mais pas dépasser 9 heures. Parce que je sais que je vais arriver chez nous à 10 heures. Puis là, moi, quand je me couche, dépasser 10 heures, ça va pas prendre tout, là.
Bien, c'est pas mauvais de mettre ses limites par rapport à ça. Puis je pense que les gens le découvrent. Puis en vieillissant aussi, notre sommeil, il change. Hein? Puis ça, c'est normal. Puis notre processus de compensation sur la privation de sommeil est moins efficace. Fait que, tu sais, quand on est privé de sommeil à 20 ans et que notre cerveau puis notre corps il est efficace pour un peu compenser pour ça, puis là, plus on vieillit, moins on est efficace à le faire. Il le fait encore, mais moins. Et donc, on réalise que, OK, je ne peux plus faire nécessairement les choses que je faisais à cet âge-là. Puis là, je dois mettre des limites, des choses en place pour venir le protéger, ce sommeil-là.
C'est tellement triste. Je pouvais dormir 2 heures, moi, là.
Ouais.
Aller travailler, tu comprends, il n'y avait pas de problème. Puis maintenant, là, mon doux Seigneur, si j'ai pas mon 8 heures, là...
Mais ça peut aller,
beau souvenir.
Ça peut aller plus loin que ça. À un moment donné, je suis parti aux États-Unis à moto pendant 3 semaines en ligne, puis je dormais très peu. Je faisais beaucoup de moto, je me promenais beaucoup, puis je dormais très peu. Puis à un moment donné, je me souviens que j'étais sur l'autoroute, puis j'étais enclin à des hallucinations. Pas des hallucinations visuelles, mais dans ma tête, et je pensais à des choses, puis ça allait tout le temps hyper loin, là.
Et mon doux, toi!
C'est paniquant quand tu vis ça. Je l'ai vécu peut-être 2-3 fois lors de voyages où je faisais des privations
dans
de sommeil.
Dans le sens que tu tombais tellement dans ta tête, t'étais dans l'une, t'étais un peu dans ton subconscient.
Puis j'étais parti. Tu sais, mettons exemple, je sais pas, moi, quand je vais revenir à la maison dans 3 semaines, ben je vais être content de voir ma blonde, mais là, s'il y a quelqu'un qui est là à ma place, qui a pris ma place, ben là, je vais être fâché. Puis là, qu'est-ce que je vais dire à ce gars-là?
Mais t'étais anxieux, c'est ça de l'anxiété, Yann.
Oui, mais c'est parce que j'avais une privation de sommeil, mais j'hallucinais des affaires qu'il n'existait pas.
C'est ce que Maud disait. Oui, oui. Mais tu te crées des scénarios. Bienvenue dans le cerveau d'une fille en passant.
Mais ça, je...
Mais moi, j'ai envie de faire du pouce sur les hallucinations parce que là, tu touches quelque chose puis il y a plein de gens qui vivent des phénomènes comme ça et qui ne savent pas c'est quoi et qui pensent qu'ils sont fous. C'est pas le cas. En fait, vraiment, là, quand on est en privation de sommeil, une des manières du cerveau pour compenser, c'est de créer du sommeil plus profond. En fait. Et l'état entre le sommeil et l'éveil, donc pendant l'endormissement, il peut y avoir des phénomènes du type hallucination visuelle, hallucination auditive. Ça vient des fois de part avec la paralysie de sommeil. Si on en a parlé à un moment donné dans une émission de la paralysie de sommeil, bien, il n'y a pas juste ça. Il y a aussi des hallucinations. Donc, au début de la nuit, dans l'endormissement, ou vers la fin de la nuit, ça va être des gens qui sont dans leur lit, essayent de dormir, tout ça, puis ils voient quelque chose dans leur chambre. Fait que c'est vraiment un genre d'entre-deux entre le sommeil et l'éveil, mais c'est un phénomène qui est rapporté, puis que sans avoir nécessairement de gros troubles de sommeil ou de problèmes de santé mentale, ça peut exister, puis on peut le vivre, et c'est pire en privation.
Ouais, puis j'en avais parlé de ça, la mère de mes enfants. On habitait au-dessus d'un salon funéraire, docteur Bouchard, et... elle trippait pas nécessairement là, qu'on habite à ce moment-là quand on a 20 ans au-dessus d'un salon funéraire. Et le soir, elle dormait, puis je vous dirais que vers 2-3 heures du matin, elle se levait bien droite sur le lit, puis là, elle disait « Yannick, est-ce que tu vois, il y a quelque chose dans le fond de la pièce? » Et là, moi, Tu sais, moi, je crois pas qu'il y ait d'autres choses, tu comprends? Fait que là, je me lève les yeux, je dis, mais il y a rien. Elle dit, oui, regarde, il y a quelque chose. Tu sais, ah, ça vient de passer au travers de la porte. Hey, moi, là, je vois rien, là, je suis en panique, là. Puis elle se rendort en une milliseconde.
Je l'aurais quitté.
Puis moi, je me dis, attends un peu, là, y a-tu des fantômes chez nous, là? Puis je ne sais pas. Jusqu'à temps que je me rende compte, Doc, qu'à un moment donné, notre chien qu'on avait à l'époque était chez ma belle-mère. Puis à un moment donné, elle m'a dit, oui, mais regarde, Hurley, il est en train de monter dans les draps. Je disais, OK, c'est beau, tu peux te recoucher, t'es complètement folle.
Ouais, c'était dans sa tête, elle était vraiment fatiguée.
C'était dans sa tête, effectivement.
Mais ça peut être du somnambulisme également.
Aussi, hein,
parce qu'en début de nuit, ça peut être des épisodes de somnambulisme. Puis le somnambulisme, ça arrive dans le sommeil profond, donc premier tiers de la nuit. Et ça peut aussi être augmenté par la privation de sommeil ou par le stress.
Hey, c'est weird non, sur c'est un weird. Temps, là. Mais le pire, c'est que tu viens quand même de régler une couple d'affaires dans ma tête parce que tu disais on peut se sentir débile, là. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, des fois, je me réveillais en plein milieu de la nuit puis je voyais comme des gens d'ombre noire. Je trouvais ça vraiment tannant. Puis tu sais, là, on dirait que tu fais le saut parce qu'après ça, tu te réveilles bien comme du monde parce que tu te demandes s'il n'y a pas quelque chose dans ta chambre, tu sais. Ouais. Fait que ce serait vraiment juste le fait d'être en manque de sommeil qui pourrait te jouer dans la tête.
Ça se peut. Ça se peut que ce soit ça. Mais moi, je suis là pour régler des problèmes, fait que tant mieux.
Non, ouais. Wow, j'adore ça. Je veux
la mélatonine. Oublie pas la mélatonine.
Les pilules?
Ouais.
Oui, bien ça. Est-ce-tu bon, ça?
Ben là, la mélatonine... Grosse question. La médication pour dormir, c'est comme tout un sujet en soi. Je dirais que la médication pour dormir, là, c'est un outil parmi tant d'autres. C'est-à-dire que ça devrait être utilisé à court terme ou une fois de temps en temps. Ce qui est malheureux, hein, si on revient au problème d'accessibilité pour traiter les problèmes de sommeil, les médicaments, souvent, c'est le plus accessible puis les gens manquent de solutions. Donc, ça se ramasse qu'on en prend sur du long terme à tous les jours, puis là, ça devient de moins en moins efficace, puis on augmente la dose. Il y a tout un cercle vicieux autour de la prise de médication. Donc, je reviens, je suis bien tannante avec ma thérapie du sommeil, mais je pense quand même qu'on devrait essayer de commencer par quelque chose comme ça et que la médication, ça soit un outil parmi tant d'autres si on en a besoin. Et la mélatonine, bien là, c'est un peu différent parce que la mélatonine, c'est un produit naturel hein, qu'on peut se procurer en pharmacie et ce n'est pas comme un somnifère. Ça ne va pas nécessairement induire du sommeil. Ça donne un signal au cerveau parce qu'à la base hein, de la mélatonine, on en sécrète naturellement, surtout si on baisse nos lumières chez nous au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Puis ça, c'est facile à faire. Fait que faites-le. Mais si on prend des suppléments, déjà, vérifiez avec votre médecin, votre pharmacien, votre pharmacienne que ça ne peut pas interagir avec d'autres types de médicaments que vous prenez. Prenez la plus petite dose parce que souvent, les grosses doses, ça fait juste donner plus d'effets secondaires et c'est, les petites doses, c'est déjà bien suffisant pour ce que le cerveau a besoin. Et c'est un outil souvent plus pour justement les gens qui ont des horaires atypiques, qui dorment de jour, qui ne sécrètent pas de mélatonine ou qui doivent se coucher très tôt puis qui n'ont pas nécessairement cette somnolence-là à 8 heures parce qu'ils se lèvent très tôt.
Il y a une question d'auditeur qui est entrée par rapport aux suppléments. Puis je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux confirmer ou infirmer, mais la personne dit, Audrey, il y a plusieurs de mes amies qui prennent du magnésium et elles ont vraiment vu une différence sur leur sommeil. C'est-tu quelque chose qui est prouvé?
Dans la littérature, il semble qu'il y a des bons résultats, effectivement, au niveau du magnésium. Donc, si ça aide, puis souvent, ce que je vais dire pour ces choses-là, c'est si ça aide, que ça n'a pas vraiment d'effet néfaste, pas d'effet secondaire, puis que ça vous fait du bien, bien, allez-y à ce moment-là.
Why not coconut?
Docteur Maude Bouchard, neuropsychologue spécialiste du sommeil, est-ce que l'alcool avant de se coucher, ça peut aider ou ça peut nuire? Est-ce que un gros repas, une grosse poutine, ça peut aider ou ça peut nuire? Moi, je me souviens que j'avais cette problématique-là. J'étais un travailleur de nuit à l'époque. Je travaillais dans les bars et à 3h30 du matin, je m'en allais manger ma grosse poutine chez Ashton. Puis après ça, je m'en allais me coucher et j'avais l'impression, puis là, je pense que le mot impression est intéressant, là. J'avais l'impression que j'allais dormir comme un bébé, là. J'avais la panse bien remplie. Est-ce que c'est positif ou négatif?
En fait, c'est le contraire. Mais là, vous avez parlé de la petite Ashton, puis moi, j'étais à Montréal, puis là, ça m'a donné bien de ça. En fait, c'est le contraire, malheureusement. Mais encore une fois, quand on est plus jeune, notre corps est capable d'en prendre un petit peu plus, puis des fois, en vieillissant, c'est plus difficile. Mais on dit qu'on devrait se garder là, au moins 2 heures avant d'aller se coucher sans manger, si on veut aider notre sommeil. Parce que sinon, en fait, c'est qu'on s'endort puis notre corps est en train de digérer. T'sais? Puis ça, on ne veut pas nécessairement ça. Puis au niveau de l'alcool, si on est stressé ou si on a une tendance anxieuse, bien, l'alcool, c'est un dépresseur. Ça veut dire que le petit verre de vin là, et qui nous fait du bien, ça nous calme. Et il y a des gens qui vont dire que ça les aide à s'endormir. Par contre, moi, j'irais vraiment pas vers cette solution-là parce que ça bousille votre sommeil après. C'est-à-dire que vous allez passer moins de temps dans les stades de sommeil profond, plus de temps dans les stades de sommeil léger. Vous allez vous réveiller plus. Ça va changer votre température corporelle aussi. Et donc, c'est un peu comme se tirer dans le pied.
Ouais, c'est ce que ça me fait. Je prends 2-3 verres de vin, mettons, le samedi soir, là, puis je m'en vais me coucher, je m'endors rapidement, mais je me lève à 2-3 heures du matin. Puis là, j'attends comme 45 minutes, 60 minutes avant de me rendormir. C'est épouvantable.
Parlant de nourriture, si, mettons, c'est l'inverse, je vais prendre hier dans mon quotidien comme exemple. J'ai pas eu le temps de souper, j'avais un rendez-vous, j'étais arrivée chez nous, il était rendu 8 heures le soir. Puis là, je me suis dit, alors, je mangerai pas à cette heure-là, justement, ça me tente pas de scraper mon sommeil ou peu importe. Fait que je suis allée me coucher, mais mon ventre gargouillait sur un temps. J'ai fini par être capable de m'endormir, là. Ma mère me disait qu'il dordine. Mais je me suis dit en me couchant, Crimbin, je vas-tu me réveiller cette nuit parce que j'en ai mal au cœur, tu sais? Quand t'as faim avant de dormir, t'es-tu mieux de manger ou justement qu'il dordine?
Bien, en fait, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, des gros repas, ça va affecter notre sommeil. Mais effectivement, si on a très faim, on se couche le ventre vide, bien, ça peut affecter notre sommeil aussi. Donc, l'entre-deux, c'est peut-être à ce moment-là de prendre une collation, de se prendre un petit quelque chose qui se digère bien, qui n'est pas trop sucré, qui n'est pas. Finalement, pas s'endormir en ayant trop, trop faim.
Question d'auditeur. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'il y a une différence dans le sommeil quand tu es dans une chambre encombrée versus une chambre qui est super bien rangée?
Et je l'aime tellement cette question-là. Puis, j'ai pas d'article scientifique, là. Fait que ça, c'est vraiment mon expérience clinique, puis ce qu'on voit avec les patients. Mais faire le ménage de sa chambre, puis que ça soit propre, puis l'enlever la poussière, puis c'est magnifique. Fait que si déjà, il y a des choses faciles qu'on peut faire par rapport à son sommeil. Puis moi, je pense que de faire un bon ménage dans sa chambre, puis de se sentir bien, se sentir calme, moi, je pense que ça fait du bien. Sauf que là, comme je vous dis, j'ai pas d'article scientifique pour me backer.
J'ajoute à ça, un environnement propre. Moi, en tout cas, si le ménage est bien fait chez nous, le ménage est bien fait dans ma tête aussi. Là. J'ai lu un article, « Mon lit, mon refuge » dans la presse, puis je trouvais ça super intéressant. Tu sais, il y a des gens qui font tout dans leur lit, puis je plaide coupable. Là. Des fois, moi, je me lève, puis je suis trop lâche pour me lever de mon lit, je vais commencer à travailler le matin de mon lit. Je vais avoir envie d'écouter une série tranquille, je vais peut-être manger un petit quelque chose dans mon lit en même temps. Le fait de tout faire dans son lit, est-ce que ça a un impact sur le sommeil?
Ça peut. Puis la distinction, là, c'est est-ce qu'on a des problèmes de sommeil ou non? Est-ce qu'on a de la misère à s'endormir? Est-ce qu'on se réveille pendant la nuit? Est-ce qu'on se réveille trop tôt, on n'arrive pas à se rendormir? Si la réponse est oui, là, c'est mieux de garder son lit pour dormir ou pour les activités sexuelles, mais rien d'autre. Parce que, dans le fond, notre cerveau, là, il associe cet endroit-là avec le fait de manger si on mange, ou de travailler, ou d'écouter la télé, ou de lire. Et donc, c'est mieux de le garder pour ça. Par contre, si on n'a pas de problème de sommeil, qu'on s'endort bien, bien là, on a un petit peu plus de latitude sur ce qu'on peut faire.
Autre question d'auditeur. On nous demande, en fait, pourquoi certaines personnes se rappellent davantage de leurs rêves et que d'autres les oublient.
Bonne question. Je ne sais pas si on a la réponse à cette question-là. Par contre, pour se rappeler d'un rêve, ça prend un réveil après une période de sommeil paradoxal. Ça, c'est le stade de sommeil dans lequel on rêve le plus puis que les rêves sont le plus vivides. Donc, si on se réveille après, ça se peut qu'on s'en rappelle. Et il y a des gens qui se pratiquent à s'en rappeler et qui peuvent un peu changer ça, le fait de ne pas se rappeler ou de se rappeler de leur rêve.
Ouais, il y avait une dame qui avait écrit un livre. C'est un livre que j'avais lu, que je trouvais franchement intéressant, puis qui mentionnait que le cerveau était fait pratiquement pour oublier ses rêves à un moment donné. Et si tu veux te souvenir des rêves, quand tu te réveilles, tu te souviens de ton rêve, tu dois l'écrire. Parce qu'en après-midi, ça se peut que tu te souviennes plus
que tu l'oublies
du rêve que tu as fait la veille. Alors qu'au matin, quand tu te lèves, tu sais exactement à quoi tu as rêvé. Fait qu'elle, c'était son petit truc comme ça. Elle se le notait, là.
Autre question d'auditeur, dormir avec des animaux. Il y en a pour qui ça a l'air super rassurant, puis il y en a pour qui c'est un pain in the ass au niveau du sommeil.
Là. Moi, ça l'est, là.
Ben là, un golden qui prend la moitié de ton lit, là.
Ouais, c'est ça. Tu sais, le chien, les deux chats, c'est l'enfer. C'est l'enfer.
C'est du gros cas par cas. Hein. Encore une fois, si on a des problèmes d'insomnie puis que l'animal nous réveille encore plus, est-ce que c'est possible justement qu'il dorme à côté? Est-ce que. Mais moi, j'ai bien de la misère avec ça parce que je sais à quel point les animaux sont importants pour les gens. Donc, c'est un peu un coût-bénéfice rendu là. Est-ce qu'on accepte que, justement, l'animal dérange notre sommeil, tout ça, puis on est correct avec ça, ou est-ce qu'on se dit, OK, ben là, j'ai beaucoup trop d'autres problèmes de sommeil et cette partie-là, je peux la contrôler, donc je vais essayer vraiment de dormir seule. Je pense que c'est des décisions bien personnelles.
Docteur Maude Bouchard, vous êtes à Tout le monde en parle ce matin, donc je vais vous poser la question qui tue. La température de la chambre doit être cédulée à quel degré?
Très fraîche, plus fraîche que le reste de la maison. On parle autour de peut-être 19-20 degrés.
Ah ouais, moi, j'étais à 17 chez nous.
17.
C'est correct.
Pourquoi?
Savez-vous pourquoi, hein?
Non.
Parce que dans notre réponse de sommeil, oui, on sécrète de la mélatonine en soirée pendant la nuit, puis ça nous aide à dormir. Notre cortisol diminue aussi. L'hormone de la vigilance, l'hormone du stress, elle diminue en soirée. Mais il n'y a pas juste ça qui diminue, il y a aussi notre température corporelle interne qui diminue pendant la nuit. Et ça, c'est important pour le sommeil, c'est important pour la qualité du sommeil. Et si notre corps n'arrive pas à faire descendre sa température corporelle, ça se peut que ça affecte notre sommeil. D'ailleurs, il y a plein de gens pendant l'été qui se demandent, voyons, comment ça se fait que mon sommeil, j'arrête pas de me réveiller. Puis qui est moins bon. Puis des fois, ça peut être la chaleur. Donc, ça peut être bien d'être dans un environnement qui est plus frais pour aider le corps à faire ça.
Là, on voit ça de moins en moins, Audrey, mais quand j'étais jeune, en ville, il y a des gens qui dormaient même l'hiver avec la fenêtre ouverte.
Nous autres, on l'ouvre de temps en temps. Même l'hiver? Un peu d'air frais. Puis oui. Moi, j'ai des doudous là, qui sont full douces, là, pas des doudous, des draps. Comment t'appelles ça? Moi, j'appelle ça des doudous en flanellette, mais je pense pas que c'est le bon tissu. En tout cas, c'est vraiment doux, puis c'est chaud. Puis je veux dire, je suis bien, je suis heureuse. Tant que ma tête est frette, là, moi, le reste se passe bien. Là. Ouais. Et moi, le monde qui met leur chambre à 25 degrés, ça m'angoisse.
Mais tu ouvres la fenêtre même l'hiver?
Oui, ça, des fois, avant de dormir, on va ouvrir la fenêtre bien grand, grosse, air frais, il fait comme 15 pendant un bout.
Ouais, pour aérer, pour faire l'amour. Faire l'amour.
Ça, c'est privé.
Aussi. Mais c'est ça. Mais l'hiver, on voyait ça. Les gens qui dormaient toute la nuit avec la fenêtre ouverte. Puis ça a l'air que ça aère. Mais en plus, comme le doc dit, quand c'est frais, ça donne un meilleur sommeil.
Des questions d'auditeurs qui rentrent que je trouve vraiment intéressant. On parle je parlais de mes draps, là. Je vais terminer avec ça de mon côté. Y a-tu, tu sais, des fois, on dit. Bon, il y a des gens qui sont. On est pauvres, OK, là, en majorité, là, au Québec, en ce moment, on a de la misère avec le portefeuille. On met pas naturellement de l'argent sur un bon matelas ou des bons oreillers, des bonnes doudous, ces affaires-là. Est-ce que c'est nécessaire pour un bon sommeil d'investir là-dedans? Il y a des gens qui nous demandent justement, y a-tu des oreillers mieux que d'autres, entre autres? Je serais curieuse de savoir ce que tu en penses par rapport à ça. Puis le changement de drap aussi, c'est une vraie affaire ou pas une vraie affaire?
Je pense que l'idée, là, c'est d'être confortable. Puis je pense qu'être confortable, ça peut être à plein de différents prix selon notre budget. Un matelas, des oreillers qui respire aussi, puis le fait de laver ses draps, de laver que ce soit propre, que ça sente bon, qu'on fasse justement le ménage, la chambre, bref, d'être bien dans notre environnement. C'est sûr que si on a le même matelas depuis 20 ans, puis qu'on sait que ça affecte notre sommeil, qu'il nous donne mal au dos, bien, ça peut avoir un impact, puis pourquoi pas le changer si on peut se le permettre, mais essayer d'être confortable, puis des fois, bien, être confortable, ça veut dire différentes choses.
Hein? C'est vrai.
Peu importe le budget.
Maude, je vais terminer avec ça pour vrai, là, OK? Parce qu'il y a une question d'éditeur qui est rentrée, puis ça a rapport avec la thérapie dont tu nous as tant parlé. L'éditeur dit « La thérapie peut aider à avoir un meilleur sommeil, mais est-ce que ça peut aussi aider pour l'hypersomnie? »
Bonne question. Donc là, l'hypersomnie, on est dans autre chose. On est dans des gens qui dorment vraiment trop, en fait, ou plus. Et il faut un peu venir trouver la cause. Est-ce que c'est justement un symptôme de dépression? Est-ce que c'est d'autres types de troubles de sommeil qui amènent de l'hypersomnie? Est-ce qu'il y a de l'apnée du sommeil en arrière de ça? Et donc, on dort vraiment beaucoup, mais on est toujours fatigué. C'est pas récupérateur. Donc, tout dépendamment, ça se peut que ce soit médical. Donc là, à ce moment-là, ça se peut qu'on ait besoin de le traiter au niveau médical et non via de la TCC, de la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie.
Docteur Maude Bouchard, neuropsychologue, spécialiste du sommeil, c'est toujours un plaisir de vous parler. Je sais que vous avez une grosse journée, donc je dois vous laisser partir, mais peut-être qu'il y aura une quatrième fois. Qui sait?
Ben là, moi, l'hypersomnie, ça m'intéresse. Fait que clairement, on a d'autres sujets à traiter.
Si vous nous appréciez, ben sachez que c'est réciproque de notre côté.
On ouvre des portes à chaque fois. Ça, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation.
Le plaisir est pour nous. Merci, Salut. Doc. Bye-bye. L'excellente Doc Maude Bouchard, neuropsychologue, qui était avec nous pendant toute l'émission. Est-ce intéressante, elle?
Ah, mon Dieu, je l'adore.
Puis je viens de comprendre bien les affaires. T'sais. Puis là, les filles, il va falloir se parler. C'est à toi que je parle. Toi puis ta gang.
C'est à moi puis ma gang. Okay, ouais. J'écoute avec ma gang.
Quand vous avez frette la nuit, là,
oui.
Bon, vous collez sur nous autres.
Oui, c'est pourquoi on a frette la nuit.
Mais si à ça... T'ajoutes le chien,
ouais.
Puis le chat.
Ouais.
Qu'est-ce qui arrive avec nous autres?
Ben, vous êtes en burrito dans votre doudou.
On a ça, mais la chaleur. Tu sais, moi, là, j'ai deux chats pas de poêle. Tu sais, mes enfants voulaient des chats. Moi, je déteste le poêle. Fait qu'on a fait un compromis.
Mais pourquoi tu les laisses dormir
dans
le
lit? Je vais prendre des chats pas de poêle parce que sinon, ils miaulent. Ils miaulent pour rentrer
dans
le chat.
Mais c'est toi qui les as élevés, ces chats-là?
Ouais, oui, je sais, mais c'est pas comme
t'avais juste à faire ta job.
C'est pas comme donne la patte, là. Fait que bref, je me ramasse avec la blonde qui est trop frette qui se colle sur moi. Je me ramasse avec les deux chats pas de poêle qui se collent sur moi. Puis le chien. Pendant que je dors, il sait que je dors, j'imagine qu'il se time un peu sur ma respiration. Mmh. Ben, il monte sur le bout du lit, puis il se couche sur le bout du lit, carrément sous mes pieds.
Ouais.
Fait que là, je me lève la nuit, et genre 3 heures du matin, je transpire.
T'as chaud.
Puis là, je dis à tout le monde, lâchez-moi.
Ouais. Ben là,
arrêtez de faire ça.
Descends la température dans ta chambre.
On n'est pas des objets.
Vous êtes des calorifères. Mais tu vois, ça dépend des maisonnées. Parce que moi, j'ai frette chez nous parce que mon chum ramasse toute la couverte, se ramasse en burrito et je n'ai plus de couverture.
Ah, c'est...
Fait que les boys, faut qu'on se parle aussi, là.
Non, mais les gars font pas tout ça. Mais prenez chacun votre doudou. Chacun,
non, ça, c'est poche,
chacun
là.
Votre couverture.
On est pas rendu là, là.
Non.
Hey, je suis pas dans la cinquantaine, là.
Mais c'est quoi le rapport?
Ben non, mais les gens aiment ça, on dirait à partir d'un moment, le faire chambre à part, puis prioriser leur sommeil.
Ouais, mais
je respecte ça,
c'est
là.
C'est important, le sommeil. Doc te l'a dit.
Oui.
Mais c'est parce que si tu dors avec quelqu'un
oui.
qui te vole tout le temps ta couverte,
oui.
Ben, tu comprends que toi, tu gèles tout le temps puis tu te réveilles.
Oui.
Tandis que si vous dormez, puis moi, c'est le cas chez nous. Là. Moi, j'ai deux couvertes, une par-dessus l'autre. Puis quand j'en ai une qui a le sommeil un peu troublé, puis elle vire d'un bord puis de l'autre, puis elle me désabrit tout le temps, ben j'y laisse la couverte, puis je prends mon autre qui est sur le dessus, puis je dors comme un bébé après. Là.
Ouais. J'aime l'effet, on est ensemble, on se touche, puis tout va bien.
Mm.
Je trouve ça le fun.
C'est ton problème,
tu
maintenant.
Peux pas... C'est ça. Moi, je te donne les outils.
Mais ça,
c'est ton problème.
Tu veux-tu te prendre une note? Pourquoi les filles ont souvent froid la nuit versus les gars
ah, bon,
ont souvent chaud?
Pourquoi filles ont froid?
C'est pour ça qu'on est pognés l'un envers l'autre?
Versus hommes chauds. Oui, j'ai gassé noté. Je trouve que c'est une bonne question parce que vous êtes effectivement des calorifères.
Oui. Mais il y en a qui transpirent. Moi, je transpire pas, là. Mais il y en a qui transpirent.
Ça, c'est horrible aussi. Comment tu règles ça, la transpiration la nuit?
Mm.
C'est épouvantable. Je vais me le noter aussi. Vous avez des questions, 89-7101, on va s'aduler une autre chronique.
11h02, pour nous joindre en studio par texto au 88-971-1021, 88-971-1021. La neige n'est pas encore arrivée sur Québec, mais aujourd'hui, on parle d'un 5 cm annoncé. Ce soir, on parle même de rafales à 60 km/h par endroit, des températures stables à près de zéro. Actuellement, sur Québec, c'est 1 degré. Pour ce qui est de demain et mercredi, ce sera une belle journée ensoleillée, avec peut-être un peu de nuages qui vont venir danser dans le ciel en après-midi. Avec un maximum de plus 1. Jeudi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 6. Et vendredi, pour terminer la semaine de travail, bien, ce sera nuageux avec un maximum de 6 degrés. On s'arrête, on vient.
Rage Against le matin.
Dites-moi l'homme.
Hey, bon mardi, 11h10 minutes. Tu vois comment les choses changent, Audrey? J'ai même pas allumé ton micro, excuse-moi. Tu vois comment les choses changent? La semaine passée, tu me racontais qu'une personne que tu connaissais, que moi je connaissais, qu'on aime bien à la station, mmh. Martin Dallaire, le dragon
oui.
rouge, l'autre bord. T'avais dit, t'avais complimenté.
Oui.
T'étais hyper heureuse de ça. Puis t'as dit, Yann, il n'y avait rien de mal à ça. Puis tout ce qu'il a dit, c'était le fun. Ça m'a fait passer une super de belle journée.
Oui, mais qu'est-ce que je t'ai dit,
Yann? Là, moi, je t'ai dit, tu sais, Maudrey, j'en passe pas de ces commentaires-là parce que j'ai tout le temps l'impression que ça pourrait être mal perçu.
C'est la façon dont
tu me dis, non,
je suis encore à la même place.
Et là, on a une connaissance en commun, toi et
oui.
moi. Qui t'a écrit dans les derniers jours,
oui.
qui t'a dit exactement la même affaire, puis là, tu m'as dit « Ah, c'est malaisant. » Il m'a écrit qu'il m'avait
oh.
croisé.
Non, là, tu fais du mauvais spectacle.
Ben non, c'est pas du mauvais spectacle.
Non. C'est pas ça qui s'est passé.
Je vais juste expliquer que ce qui vient de se passer
c'est
là...
C'est la raison pour laquelle t'en fais pas.
C'est la raison pour laquelle je ne passe jamais aucun commentaire sur mes collègues féminines.
Ouais.
Ah, nouvelle culotte.
Il y a une différence.
Nouveau t-shirt serré. Non, jamais.
Mais là, tu vois, non, mais tu viens de donner l'exemple. Hey, t'as un nouveau t-shirt, ça te va bien. Hey, t'as un nouveau t-shirt serré, ça te va bien. tu vois, là, on est à deux places complètement différentes.
Ben, c'est pour ça que je fais pas de commentaires.
Il y a une différence entre, hey, je trouve que tu rayonnes ces temps-ci, t'as l'air bien.
Oui.
Puis, hey, t'es vraiment magnifique, là. Tu comprends, il y a une façon, il y a un ton, il y a un.
Tu sais, je le connais, cette personne-là, là.
Oui.
Il parle pas de même, là. Il voulait ça,
moi,
il voulait juste
je
être, il voulait juste être gentil.
Ouais.
Fait que c'est pour ça que moi je ne fais pas ça.
Je comprends.
Fait que c'est pour ça que tu te prives de toutes mes gentilles choses que je pourrais dire.
Mais moi je ramasse le sac à marde avec toi.
Oui. Hey Audrey, t'as mis une calotte aujourd'hui, tes cheveux sales.
Hey, Hey, t'es habillé tout croche, tu pourrais t'habiller comme du monde.
T'as-tu dormi dehors?
C'est un corps dans linge, il me semble que t'es cerné aujourd'hui. Hein? T'es-tu maquillé?
Fait quand même 3 jours, t'as ce linge-là sur le dos. On est un peu épais, c'est pas grave, c'est ce qui fait qu'on est attachant.
Attachant, on sait pas, ça dépend.
Ou attachant. Hey, il me restait des trucs à te jaser, je m'étais mis ça de côté. C'est une histoire que je t'ai envoyée tantôt, une histoire complètement hallucinante. Une personne âgée qui gardait le corps de son mari de 86 ans.
Juste te dire que j'ai rien lu parce que je voulais que tu me racontes.
Dans le garage de sa maison, et ce qu'on sait, c'est qu'elle l'a tué à coups de marteau. Puis tu comprends qu'elle est devant le procureur là, pour expliquer ses crimes. C'est une dame de 59 ans. Ça se passe en France, dans un petit village en France. Puis elle a été interpellée le 31 mars dernier après une perquisition. Le maire de la ville s'était aperçu que la dame était en train de liquider les trucs de collection de son époux. Et le maire savait éperdument que son époux n'aurait jamais donné ces articles-là au péril de sa vie. Là. Donc, il a posé des questions à cette dame-là en disant « Mais votre mari est où? » Elle disait « Ah, il est parti à l'étranger pour quelques jours, dans une fameuse retraite spirituelle et tout ça. » Mais ça faisait des années qu'il avait disparu. En fait, il est disparu pendant 6 ans. Et elle, ce qu'elle a raconté, OK? C'est des voitures de collection en passant, si quelqu'un te le demande. Là. Et elle, ce qu'elle a raconté, c'est qu'elle l'a tué parce que l'homme de 86 ans voulait une relation sexuelle. Et elle a refusé la relation sexuelle et semblerait qu'il lui avait donné des coups sur la tête à cette dame-là. Donc, elle s'est fâchée, puis elle a décidé de l'assommer. Puis elle a enfoui son corps dans une fosse du garage.
Fait qu'elle appelait de la légitime défense, dans le fond.
Ouais.
À coups de marteau.
À coups de marteau.
Puis au lieu de déclarer que... Si je suis son histoire à elle,
si elle
se serait fait agresser sexuellement.
Si elle a tenté de la violer, là,
t'appelles la police.
J'ai le monsieur qui soit décédé, ça ne me dérange pas tant. Là. Tu comprends? Si vraiment il a essayé de la violer.
Oui, je comprends.
Tu comprends? C'est moi. Là, tu violes un enfant, tu violes une femme. J'ai très peu d'empathie pour toi.
Je comprends.
Que tu finisses tes jours en prison ou que tu sois 6 pieds sous terre, c'est la même chose pour moi.
Tu t'en balances.
Je m'en balance. Mais elle va devoir répondre de ça.
Là. Mais là, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est facile à monter un coup que la personne est morte. Là. Je veux dire, c'est ta parole tout court là, contre personne d'autre. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens de faire. Là. Tu peux l'assommer avec un marteau pour te défendre. Je suis pour ça. J'aurais fait pareil si j'avais un marteau à portée de main et on avait tenté de m'agresser. Mm-hmm. Mais de là le finir, tu comprends? Ben assommé, d'après moi, il bouge pas pendant 5 minutes, t'as le temps d'appeler la police. Là.
Ouais. Mais dans le moment que c'est une tentative de viol selon elle.
Ben, outrage à un cadavre, Yann!
Il y a outrage à un cadavre, effectivement. Elle aurait dû appeler la police suite à cette tentative
ben oui,
de viol là où elle
il est
s'est
mort,
défendue.
C'est ça. Tu dis, je me suis défendue, puis Crimbin, zut, il est mort. Ouais. Peux-tu le ramasser?
Mais rendu à un certain âge. C'est pas une dame qui est vraiment vieille. On parle d'une dame de 59 ans, donc ça fait 6 ans. Elle avait 53 ans à l'époque. Son mari avait été autour de 80. Donc,
il voulait son argent, c'est ça que tu t'es dit?
Comment?
Il voulait son argent, c'est ça que tu t'es dit?
Non, pas du tout. C'est juste qu'elle a refusé la relation sexuelle puis il aurait mis un couteau sous la gorge.
C'est
elle
ce
qu'elle plaide.
Bon,
ouais.
Tabarnouche. Aïe, aïe.
Mais moi, c'est plus le fait de vivre 6 ans avec le corps de quelqu'un dans ta maison.
Moi, je serais pas capable.
Tu sais, il y a quelqu'un dans ma vie qui devait exposer les cendres de sa mère décédée 4 ans plus tôt. Là, puis les cendres étaient à quelque part puis elle a dit « Hey, j'aimerais ça ». Que sur le terrain, on puisse mettre ces cendres-là.
Ouais.
Moi, je n'étais pas capable. Moi, des cendres dans ma tête, c'est au cimetière ou encore...
Ça peut pas être dans une maison.
J'aurais de la misère.
Même dans un...
T'es chez vous, t'es sur le divan, t'es seul à la maison.
Puis l'urne
ça
est
fait
là.
3 jours que t'as pas vu ta blonde. Puis là, tu te dis, ah, ben, tu sais, je vais écouter un petit film joyeux. Puis là, tout d'un coup, tu te revires, tu regardes le pot de sang, tu dis, oh, finalement, la belle-mère est encore là. On va laisser faire.
Oh, ouais, hein?
Ouais.
À ce point-là.
Ouais.
Moi, tu vois, ça dépend. Je vis mal avec une urne chez nous, c'est sûr. J'aurais vraiment de la misère à vivre avec une urne.
Imagine-toi avec un corps caché.
Mais tu vois, saupoudré sur le terrain, quelque part, de comme. On a fait quelque chose de vraiment significatif pour mon grand-père sur la terre familiale, là, sur la côte nord. C'est un petit peu des cendres qui se sont retrouvées pour faire grandir un arbre.
Je trouve ça cute, ça.
Puis cette façon-là de faire, je trouvais ça hot parce que l'arbre représente, tu comprends, puis le reste, effectivement, est au cimetière. Mais moi aussi, je pense que je vivrais mal avec... Mais je pense que tu peux pas le savoir avant d'avoir perdu quelqu'un, par exemple.
Moi, dans la maison, c'est non. Sur le terrain, je trouve ça particulier parce que tu peux plus vendre ta maison.
Mais c'est parce que là, tu perds ton être cher, c'est ça, c'est un peu touché, là.
Tu sais, tu veux vendre ta maison, mais l'arbre, tu peux pas l'amener avec
non,
toi.
Non, c'est
là.
Ça.
Fait que c'est un peu...
Tu demandes des visites.
Comment?
Tu demandes des visites. Je vois la maison avec une clause parce que chaque samedi, il faudrait que je vienne me recueillir chez mon mari.
Ouais, c'est ça. C'est, ouais. C'est un peu touché. T'sais, c'est la raison pour laquelle moi, je veux qu'il dispose de mes cendres, mais à quelque part.
Dans un endroit significatif.
Aller faire un trip en bateau sur le fleuve Saint-Laurent, monter le plus haut possible, là, à hauteur de Rimouski, là, ou au Bic, là, c'est super,
ouais,
beau. Puis mettez mes cendres là. Je ne suis pas sûr que c'est légal.
Non.
Mais c'est pas grave, faites-le. Envoyer des cendres dans les airs, tu sais, mettons qu'ils font du parachute. Mes deux gars qui décident de faire du parachutisme.
Non, ça, c'est chien.
Ils pitchent ça dans les airs.
Là, tu vas tomber sur la tête de bien trop de monde. Là.
Ben, c'est, ben, je fais de la radio pour ça.
Oui, mais là, c'est beaucoup trop simultané, cette affaire-là.
Non,
là.
C'est trop direct. Okay. Il me
semble que la pluie est dure aujourd'hui.
Parce que je me vois pas. Je vois pas qu'ils disposent mes cendres au cimetière. Il
me semble respirer, Yann.
Tu sais, mon père est au cimetière.
Oui.
Puis je trouve ça weird.
T'aimes pas ça?
Non. Tu sais, j'aurais aimé. C'est le lieu. J'ai l'impression que pour rejoindre, même si je crois pas à la vie après la mort, j'ai l'impression que pour rejoindre mon père, il faut que j'aille toujours là.
Ouais, mais oui, ben c'est quoi? Moi, j'allais te dire quelque chose qui me manque ces temps-ci, là, si on est dans les confidences, moi. Là. J'ai une amie qui est décédée il y a presque un an, jour pour jour. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je me rends compte ces semaines-ci qui me manque d'avoir un lieu. D'avoir un endroit, parce que dans ses souhaits, cet ami-là voulait pas être dans un cimetière. Ouais.
Mais admettons qu'elle me dompe, là. Mettons que la famille me dompe dans le fleuve Saint-Laurent. À chaque fois que tu vas voir le fleuve, tu vas penser à moi, tu vas pouvoir me parler.
T'sais. Non, mais tu as raison. Non, non, mais ça, je suis d'accord. Il y a un endroit spécifique, effectivement. Et
C'est juste que sur le terrain, tu peux plus vendre le terrain, là.
Non, il faut que tu le gardes.
Puis après ça, si tu le vends, tu dis, je le dirai pas. Anyway, l'arbre va rester là. Puis tu arrives un an plus tard, puis l'arbre est coupé, déraciné. C'est la panique, là.
Tabarnouche.
Hein? Vous aviez pas pensé à ça, hein?
Ben, moi, il faudrait qu'il me le dise, s'il coupe l'arbre, je vais ramasser le bois, là. Tu comprends? Je vais.
Ils vont faire quoi avec le bois?
Ben, là, je vais le vernir, je vais l'accrocher, là, je sais pas, là. Je vais garder un bout de bois, un petit bout de toit.
Ah oui, un petit bout de moi.
Un petit bout de toit, c'est pas ça la chanson?
Non. Mais tu voudrais un petit bout de moi?
Un peu pas de toi, personnellement.
Lequel?
Là. Mais je... Un bout de bras, OK?
Parce que c'est...
Un doigt. Hein? Mais ça, je trouve ça plus important. Tu vois, si j'avais la chance, moi, de garder dans ma vie,
ouais,
des effets... Tu sais, mettons, aujourd'hui, je porte le chandail de mon père. Okay. Mais moi, mettons que c'est tout ce que j'avais dans la vie qui me restait, ben c'est correct. Je le chérirais jusqu'à la fin. Pas besoin d'un gros héritage, pas besoin de... Juste un petit bout de... Quelque chose qui... Tu sais, j'ai la chance d'avoir le kit de moto de ma grand-mère.
Est-ce que si... parce que là, c'est rendu possible d'avoir un diamant.
Oui,
de transformer les cendres en diamant. Tu sais, moi, j'en avais déjà discuté avec ma blonde, là. Puis elle m'avait dit, ben, mettons que tu meurs, là qu'est-ce que je fais avec tes cendres et tout ça? Fait que j'y avais dit ce qui, moi, m'intéresserait. Puis là, elle avait dit, ben, j'aimerais ça te transformer en diamant. Puis de t'avoir sur mon cœur. Puis là, j'ai dit, excuse-moi, fille, t'as 35 ans. Là. D'après moi, si je meurs, dans 3-4 ans, tu vas avoir un autre chum.
Mais ça change rien, ça.
Puis de savoir que je suis là.
Mais ça change rien.
Pendant que vous faites des saloperies.
Ça change rien.
Ça change rien.
Non, ça change rien. Ça, j'arrive à comprendre. Non, ça change rien. C'est un pan de ta vie.
À ta peu, là. Audrey!
Oui.
Pain chaud.
Oui.
Petit chum.
Dessert.
On touche du bois. Il dessert.
Oui, on touche du bois en tabarnouche. S'il vous plaît, on le fait à la gang, OK?
Ouais, puis là, tu vas t'acheter une maison, puis tu vas être dans le troupe.
OK, mettons. Dans un univers très parallèle.
Ouais, il décède.
Ouais.
Puis là, il dit, chérie, je veux que tu me transformes en diamant puis que tu me conserves toute ta vie sur ton cœur.
Mm-hmm.
Parfait. Tu rencontres un autre gars dans 3 ans. Faut que tu refasses ta vie, t'es jeune.
Oui.
Tu veux des enfants.
Oui.
Tu fais des couchi-couchi avec petit chum dans le cou.
Mais c'est sûr que toi, si tu vois ce bout-là, c'est un peu...
Mais c'est ce que j'expliquais à la bonne femme à la maison!
Non, mais ça, c'est débile. Non, mais c'est pas la bonne façon de le voir. Parce que moi, je rencontre... Non. Je vais mettre ça à l'inverse. Comment... Moi, je me demande... Avant de prendre une décision, Yann, je me demande toujours comment moi, je réagirais.
Mettons que je suis là, moi, je suis en diamant, puis je vois tout ça live. Là,
dans un univers plus que parallèle.
Calvaire, okay? Il y en a une plus grosse que moi.
Ta blonde décède.
Ça rentrera pas, Isabelle!
Je te rencontre. Puis t'as, je sais pas, une bague, whatever, qui est faite des cendres d'un bracelet, peu importe. Okay? C'est beau ce qu'ils font aujourd'hui. Je te demanderai jamais dans 100 ans, Yann, d'enlever ça. Ça fait partie de ta vie. T'as pas choisi que cette personne-là décède. C'est quelqu'un que tu vas toujours apprécier. jamais je vais te faire une crise. Jamais, 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 jamais. Et j'espère, si je rencontre quelqu'un qui me demande d'enlever ce dit collier-là,
ouais,
c'est pas la personne pour moi.
Mais pour faire des mamours, tu l'enlèves.
Mais non. Tu gardes ça tout le temps dans ton cou. Ben, y a des gens qui enlèvent leur collier. Moi, mes bijoux sont très significatifs et je les ai 24-7. Jamais, jamais, jamais sont retirés.
Ouais.
Fait que non. Puis l'autre affaire, c'est pas mon petit chum qui me demanderait d'être dans mon cou. Si il est dans mon cou, c'est parce que je vais avoir décidé après sa mort que j'ai besoin d'eux.
Mm-hmm.
Ça, c'est l'autre affaire.
Parce que tu veux pas qu'il t'impose rien.
Absolument. Il m'imposera jamais rien. Même de sa mort.
Oh boy, j'espère qu'il t'a entendu.
C'est, il le sait.
Hey, on se laisse là-dessus, ma chère Audrey?
C'était deep.
Oui, vraiment.
Tabarnouche.
C'était vraiment profond.
Je sais pas comment je file, là.
Ouais. Bon, c'est pas grave. T'as un peu d'heure pour te reposer. Là,
Pascal
d'ici,
et toi.
14 heures. Fait que je te souhaite de passer une belle fin de journée. Pascal s'en vient dans les prochaines secondes pour le show du midi.
Méchante belle fin de journée. Je vais penser à mon jeune qui pourrait potentiellement mourir dans un univers parallèle. Vraiment le fun.
Et le transformer en diamant.
Wow.
Que tu pourrais conserver sur ton cœur.
C'est beaucoup.
Dans l'éventualité de rencontrer quelqu'un d'autre.
Ouais, on se parle demain.
Ah, oh, c'est compliqué. Vilain Bingouin!
Sa mère, elle l'aimait plus!